Le chemin des mots. Arrête-toi. Attends. Écoute. Souviens-toi. Le mot chiffonné sur du papier glacé. Le verbe poétique caché dans la phrase. Donne vie aux images. Grave son nom sur un tronc d'arbre. Écris le tumulte des eaux. Imagine les elfes s'abritant sur un rayon de lune. Embrasse le texte dans son renouveau. Relis-le, chante-le, offre-le, une nouvelle en voyage sur le chemin des mots.
Bonjour à vous, un 9e rendez-vous pour ce cheminement avec les mots. 2001, Odyssée de l'espace. 11 septembre 2001, l'attentat contre les Twin Towers ont marqué le passage des années 2000. Le fil conducteur de nos nouvelles en tiendra compte, mais il sera aussi question de nouveaux départs, de recommencements. Comment embrasser le monde avec humour et sympathie quand les nouvelles quotidiennes ne sont pas des plus glorieuses? Nous faisons appel au trio Zéphyr, violon, violoncelle, violon alto et voix pour les pauses musicales. Entre calme et tumulte, lumière et obscurité. Les voix s'y élèvent dans une langue inventée, poétique et sans frontières.
Janvier 2001. Quand Marc Donadieu, l'animateur populaire, ouvrit le capot de sa décapotable, le pauvre homme hypochondriaque fut proche de l'apoplexie. Le moteur, un véritable bijou de mécanique, fumait et dégageait une odeur d'œuf pourri. Le pot d'échappement de sa Porsche n'était pas en reste et crachotait un liquide visqueux. Nul doute, on avait saboté sa fière monture. Marc, si amène, laissa sortir un juron improbable dans sa bouche. « Nom de Dieu de bordel à queue !» Puis, il se décomposa et appela la police pour déposer plainte sur le champ. Il n'allait pas en faire un potage ni un porridge, mais quand même. En attendant, il appuya sa paume sur l'hippocampe, se sentant tel un gastéropode impotent. Il se cramponna à un poteau et se laissa glisser au sol. Habitué à tout optimiser, il décida de mettre à profit ce contretemps et de peaufiner son discours pour la remise de son poca aux tasses d'or qu'il devait recevoir dans la soirée pour avoir lancé l'émission sur TF1 Love Story, numéro 1 de toutes les audiences. Une autre émission quotidienne était devenue incontournable, un karaoké nommé Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Animateur numéro 1, personnalité préférée des Français, quelques implants au burn, la ride du lion effacée par quelques injections, les dents alignées d'une blancheur de neige, le teint juvamine toujours hâlé, la silhouette svelte, le costard noir et des pompes rouges ou pailletées étaient sa signature. Marc restait alerte et jeune d'esprit avec un franc-parler goguenard d'où son capital sympathie. De plus, une tache lie de vin sur les ailettes de son nez le rendait infiniment accessible et touchant. Marc, à l'apogée de sa carrière, était surexposé. C'était la rançon de sa popularité. Les potins sur ses jeunes conquêtes remplissaient les gazettes People. Le quasi-monopole des émissions produites par Marc sur le service public commençait à créer la polémique. Il avait beau être l'animateur préféré des classes populaires, il ne chipotait cependant pas sur le pognon, cela frisait l'imposture. Mais, chapeau l'artiste, la sympathie qu'il inspirait se retournait sur ses détracteurs. Il était intouchable, indétrônable. Marc était omnipotent. Il se sentait invulnérable. Tout était sous contrôle. Son staff veillait. Alors, sa Porsche sabotée, impossible. Alors que ce 1er janvier 2001 devait célébrer sa réussite, ce sabotage fut le grain de sable dans une mécanique si bien huilée et fit tout capoter. Soudain, telle Perrette et le pot au lait, tout partit en compote et allait le déstabiliser plus qu'il ne pensait. Le soir, on ne le vit pas à la remise de son prix. Voici que Marc Donadieu disparut des radars. Son portable était hors ligne. Son dernier appel avait été pour la police qui, en arrivant sur les lieux, découvrit la voiture fumante et abandonnée. Le smoking pour la remise des prix laissé sur le siège passager à côté de son téléphone. Plus inquiétant encore, un message énigmatique sur un post-it collé sur le tableau de bord. « Je me sens comme la pucelle de Don Rémy. Ne me cherchez pas, moi j'ai trouvé. » Il n'existait aucune explication rationnelle. On supposa tout et son contraire. Un enlèvement par une chaîne concurrente, un règlement de compte par un joueur de poker déconfit, une escapade amoureuse en terre inconnue, une cure de jouvence et de remise en forme en Suisse, un enlèvement par une groupie psychopathe et conduite, une mise en scène. Les hypothèses menaient bon train, mais les recherches restaient vaines. Un an plus tard, des journalistes retrouvèrent sa trace et tournèrent un documentaire. C'est ainsi qu'on put le découvrir au sein d'un jardin ceint d'arcades, au milieu de fleurettes vagabondes, de roses anciennes, d'œillets mignardis, de dahlia ibéris et campanules, contempler toutes ces merveilles. On l'apercevait en train de rempoter des lys de madone, cultiver au potager des potimarrons, tripoter des insectes pollinisateurs. On le voyait ramasser du laurier de Saint-Antoine pour égayer la blanquette du soir. Puis, on le suivait dans une salle voûtée, on l'entendait murmurer, « Psalmodier serait plus juste ». Désormais, Marc, appelé frère Benoît, vit en bon apôtre, pauvre mais dépositaire des richesses spirituelles. Il appartient dorénavant à la confrérie des moines cistériens sur l'île bénie de Saint-Lérin. Lors de cet incident, un signe céleste lui était apparu. Il eut une révélation. Sa vie n'était que vanité. Un simple incident sur une automobile et le voilà à la rate au courbouillon. Il se sentit pathétique. Il entendit Jésus l'apostropher, papoter à son oreille et lui ouvrir les chemins de la foi rédemptrice. Il ne put résister à son appel. Il se dépouilla sur le champ, abandonna tous ses atours. Depuis, il vit sa foi dans la chasteté, le don de soi à Jésus. Il n'a jamais été aussi heureux. Tels sont les mystères du rosaire. Dominus vobiscum et dona nobis pacem. P.S. Les implants pour cacher sa calvitie n'étaient sans doute pas nécessaires.
Un homme d'âge mûr, costume blanc, est debout, un verre à la main. Il tourne en rond, visiblement préoccupé. Puis il appelle. « Michel !» Entre un personnage en tunique blanche. Il flotte à 1 mètre du sol. Il porte des grandes ailes dans le dos et une épée flamboyante à la main. Il attend. « Michel, fais-le entrer. » « Oui, Seigneur. » Un jeune homme entre, vêtu d'une peau de bête, allure sportive un peu fruste. « Entre, Cain, entre !»« Bonjour, Seigneur, vous m'avez fait appeler ?»« Oui, j'ai à te parler. Tu veux boire quelque chose ? Whisky, bière ou coca ?»« Dites donc, c'est bien chez vous ?»« Oui, c'est un endroit paradisiaque. Et je dois avouer que je suis assez fier de ma création. » 6 jours. J'ai fait tout ça en 6 jours. Pas mal, hein? Surtout le jardin. Qu'en penses-tu? En fait, ça a surtout consisté à faire du rangement. C'est un vrai chaos. J'ai séparé les eaux d'en haut de celles d'en bas. J'ai séparé la mer de la terre, le jour de la nuit, etc. etc. Et puis, j'ai créé l'homme, ton père. Et maman? Ève? C'est ma plus belle réussite. La mère de mon fils va lui ressembler. Je ne savais pas que vous alliez vous marier. C'est pour plus tard. Et puis, je ne serai pas vraiment marié. Tu sais, Cain, je suis Dieu. Je suis infini dans le temps et dans l'espace. À moi tout seul, je suis masculin et féminin. Je suis tout. Alors j'assure ma descendance sans trop de problèmes. Tiens, regarde plutôt ça, c'est un arc-en-ciel. Je fais ça quand je suis de bonne humeur. C'est chouette. C'est cool chez vous. Chez moi, en bas, c'est plus austère. Vous n'auriez pas une place de jardinier ? J'ai commencé à travailler la terre. J'arrive à faire pousser pas mal de choses, mais c'est dur. Ça fait transpirer. C'était ma première idée. Mais j'ai dû y renoncer après cette petite aventure de ta mère avec le serpent. Mais ce n'est pas pour cela que je t'ai fait venir, Cain. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous construisez une tour maintenant. Oui, vous verrez, ça va vous plaire, tout le monde s'y met, on a appelé ça la tour de Babel, parce que ça nous rapprochera de vous. On s'est organisé pour que tout le monde y participe, maintenant tout le monde a la même idée, tout le monde pense pareil, vous rejoindre en haut, ça va être super. Mais je ne veux pas de ça. Tout le monde pareil, c'est du totalitarisme. Vous allez m'arrêter ça tout de suite. Qu'est-ce que c'était encore que cette idée ? Dès que je vous laisse libre, vous me foutez la pagaille. J'ai créé l'homme pour qu'il s'occupe de mon jardin du paradis. Ève a tout gâché avec cette histoire de pommes, alors je les ai virés et j'ai créé la mort pour leur apprendre à vivre. Je les ai rendus libres parce que je les aimais. Normal, c'est moi qui les avais faits. Mais vous et vos descendants, vous commencez à me gonfler avec vos conneries. Déjà que tu avais tué ton frère et que... Vous aviez pas dit que c'était interdit. C'est vrai, mais quand même. Il m'énervait avec ses airs de bigot, j'étais jaloux. D'ailleurs, vous vous êtes bien vengé avec cet œil qui me suivait partout. Je l'entends encore, votre refrain. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. C'était de la littérature, et ce n'était pas moi. Mais je dois reconnaître que c'était bien écrit. Bon. Maintenant, vous allez essayer de vous tenir tranquille. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous vous occupez de cultiver la terre. Vous faites des mômes pour la peupler. Vous m'aménagez la planète. Bref, vous prenez la relève. Moi, j'ai bossé pendant 6 jours. Le 7e, je me repose. Et je regarde ce dont vous êtes capable. C'est compris ? Vous travaillez 6 jours... Et le 7e, vous avez le droit de vous reposer. Et vous chantez mes louanges. Do, 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 ré, mi, ré, do, mi, ré, ré, do. En grec, en hébreu ou en arabe, ça m'est égal. Mais vous le faites. Ok ? Oui, Seigneur. Alors, pour la place de jardinier, tu te fous de ma gueule ou quoi ? Allez, l'entretien est terminé. Michel ! Tu peux raccompagner Cain sur terre. Reviens ensuite me voir, j'ai un certain nombre de choses à te demander. Michel sort avec Cain. Dieu va s'asseoir dans son fauteuil, se resserre un whisky jusqu'au retour de l'archange. Écoute bien ce que je vais te dire. J'ai pris quelques décisions. Le plus urgent, c'est de les empêcher de terminer cette tour. Il est hors de question qu'ils arrivent jusqu'ici. Tu vas faire en sorte qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Chaque homme, tel que je le concevais, devait être unique. Tout le charme consistait à découvrir l'autre, sans jamais le connaître complètement. Il faut conserver une part d'altérité, de mystère. C'est leurs différences et les relations qu'ils vont construire entre eux qui sont importantes. Ils n'ont vraiment rien compris. S'ils continuent comme ça, ils vont inventer la guerre, le fascisme, les croisades, l'inquisition, le djihad, le fondamentalisme. Et tout ça, si ça se trouve, en mon nom personnel. C'en est trop. Michel, il faut tout reprendre à zéro. Tu sais ce que nous allons faire ? Je vais détruire l'homme, l'anéantir. Vous allez faire ça ? Détruire votre œuvre ? Mais Seigneur, comment ? J'y ai bien réfléchi. Je vais les noyer. Un vrai déluge. Et après, vous repartirez sur d'autres bases ? Probablement, mais alors il faudra que je leur donne des règles. Pas trop, sinon ils vont les oublier. 12, 20, non, c'est trop. 10, voilà, 10 règles, c'est très bien, ça suffit. On appellera ça le décalogue. Qu'en penses-tu ? Satan ne va pas être content du tout. Il avait l'air de beaucoup s'amuser sur cette terre. Oh, ne crains rien de ce côté-là, il restera le grand séducteur qu'il a toujours été. Bien. Et comment on s'y prend pour leur faire connaître les règles ? J'ai pensé à un film, un péplum, Cinémascope, Technicolor, son Dolby Stéréo, une super production avec Charlton Heston dans le rôle de Moïse. Et comme titre, Les 10 commandements.
J'ai écrit parce que c'était la seule façon de parler en se taisant. Pascal Guignard. En écrivant, je peux être qui je veux, quand je veux. Auteur anonyme.
Une douleur connue. Mais d'habitude, elle s'invite la nuit ou bien au petit matin. Pas l'après-midi, sur la voie express. Arrêt en catastrophe, warnings, éjections, gesticulations. Ah, les coliques néphrétiques provoquent une agitation frénétique et la contrepétrie n'y est pour rien. Cris et grognements jusqu'à ce que la souffrance se calme un peu. Je suis à 20 minutes de chez moi. En serrant les dents, je dois pouvoir rentrer. C'est mieux que d'attendre une ambulance sur le bas-côté. Hospitalisation. Le soir et le jour suivant, le diagnostic se précise. Cette crise est plus grave. Après la voie express, la voie de la raison médicale préconise l'extraction par les voies naturelles. Périphrase apaisante pour le patient, celui qui souffre. Va donc pour l'urétéroscopie. Il y a urgence. L'opération est fixée au lendemain. Je résume sobrement mes symptômes au chirurgien. Ça fait très, très mal. Il accueille mes ressentis avec sérénité et m'expose le programme. Le matin, en anesthésie, on m'opère. Je me repose le reste de la journée et la nuit et je repars le lendemain matin. Une formalité. Nous y voilà. Enfin, surtout moi. Nu comme un ver, auquel on aurait passé une chasuble. Pure hypocrisie, puisque ce qu'elle cache sera bientôt l'objet exclusif des attentions de l'équipe. Et plutôt serein. Piqûre, je me réveille sur un lit roulant. L'infirmière qui le pousse m'informe que l'opération s'est bien déroulée et que je suis seule dans la chambre et que j'ai la chance d'avoir la télé. C'est alors que tout bascule. Vous allez pouvoir regarder l'avion qui s'est écrasé sur le gratte-ciel à New York. Je la dévisage, consternée. Mais qu'est-ce que cette clinique où on se permet un humour aussi foireux ? Je réagis. Mais je ne trouve pas ça très drôle. Elle se fige. Et je comprends qu'elle ne plaisante pas. Nous sommes le 11 septembre 2001. Je viens de me réveiller. J'ignore l'heure qu'il est. J'allume le récepteur. Les images m'agrippent. En face de moi, un avion surgit et percute sans cesse une tour. Des témoins crient. Des hommes et des femmes fuient ou convergent. La fumée s'échappe des niveaux supérieurs. Rien ne se passe plus. Si, la caméra zoome, on voit la mince ligne noire de l'étage frappé. Au-dessus, piégés par le feu, des désespérés agitent des tissus aux fenêtres. Un homme chute en un interminable vol plané avant de disparaître derrière un immeuble. J'oublie de respirer. Changement de plan, les pompiers entrent dans la tour comme à la parade. Équipements, uniformes et casques de conquistadors, sous les applaudissements. Des propos erratiques meublent, sans l'interrompre, la boucle hypnotique des séquences. Puis soudain, les hurlements de la foule. Un autre avion frappe la deuxième tour. Il disparaît et ressort en un nuage de feu et de débris, comme tamisé par la traversée de l'immeuble. Et la nouvelle scène se répète ad nauseam, filmée sous tous les angles. Des hypothèses s'échappent. On sait maintenant qu'il... Les images sont trop fortes pour que j'écoute vraiment. Le Pentagone, un autre. Oui, on ignore. Attendez, oh mon Dieu ! Dans un silence terrifiant, la tour nord chancelle et s'effondre sur elle-même. Puis monte le grondement. Puis le souffle énorme balaie l'espace. Puis les blocs de béton et de ferraille. Puis une grêle de débris. Enfin, une poussière noire obscurcit tout, envahit l'écran et sature mon cerveau. Ah, c'est trop. Le vide. Je coupe la télé, bois un verre d'eau, pars aux toilettes. Ah, mauvaise idée. Ma vessie évacue les lames de rasoir. Je hurle. Me souviens qu'on m'avait évoqué de possibles douleurs de miction. Euphémisme médical. De retour sur le lit, je résiste 10 minutes. Puis je rallume. Je zappe en vain. Tout n'est que chaos. Recroquevillé dans mon lit, je suis prisonnier de la télé. Un amoncellement de débris a remplacé la tour nord. La tour sud, percutée plus bas, brûle sur le tiers de sa hauteur. Et sous mes yeux se reproduit le cauchemar. Au ralenti, les étages s'encastrent les uns dans les autres, tandis que l'antenne du bâtiment, toujours verticale, les accompagne, presque gracieusement. Fuite réflexe des piétons, deuxième couche de cendres et de gravats qui ensevelit immeubles, rues, voitures, paysage lunaire, volcanique, où errent encore des fantômes gris, hébétés, comme je le suis moi-même. Le lendemain matin, le chirurgien me montre la bille qu'il m'a retirée. Sa taille me fait frémir. Dans un accès d'empathie inattendu, le praticien concède. Ça devait être très douloureux. Je réfrène l'envie de lui répondre et je fais bien, car il a une confidence pour moi, qu'il me livre en me raccompagnant. Il y a 50 ans, vous en seriez mort. La phrase résonne en moi. Je suis donc, d'une certaine façon, un rescapé. Sauvé par des hommes et la technologie que d'autres viennent de détourner. Je bénéficie d'une tranche de vie supplémentaire quand tant d'autres ont eu leur vie tranchée. Je pense à ceux qui ont évacué les tours à temps, sont sortis indemnes des décombres ou étaient en retard pour prendre le train ou le métro qui les aurait amenés à la mort. Pour moi, la vie retrouve son cours ordinaire. Et pour eux, chacun de ces survivants va reprendre son chemin, en portant de ce jour ce qu'il en fera, un cadeau ou un fardeau. Thank you.
Solstice d'hiver. Noël. Il est 24 heures ou 0 heure. Je me poserai la question plus tard. Je décide de passer la nuit au balcon. Noël au balcon au sens propre. J'attends de cette nuit un recommencement, un jour nouveau. Je compterai et décrirai chaque heure. J'arriverai aux 24 heures suivantes. Après le repas traditionnel, j'y suis être raisonnable et j'attaque cette veillée en bonne forme. La soirée est belle et je n'ai d'autre ambition que de regarder. C'est beau une ville la nuit. Cela a déjà été dit. Je le ressens intensément. De 1 heure à 2 heures, je ne suis plus dans la zone incertaine de 0 à 1. C'est positif. Pourtant, rien n'a changé. Ces 2 heures se ressemblent. Les néons de la ville me rassurent. Il fait doux pour la saison et je me sens drapé d'une grande sérénité. De 02 heures à 03 heures. Dans la rue, quelques fêtards ruent dans les brancards. Klaxonnent, phares, la pluie siffle sous les pneus. Les paupières s'alourdissent. Ne serais-je pas mieux dans mon lit gris bleu? 3 heures à 4 heures. Heure difficile. Je frissonne. L'humidité me saisit. Et la fatigue aussi. Des idées sombres me trottent dans la tête. Manque de sommeil sans doute. Je sais que ces pensées s'évanouiront au fil de la journée. Mais tout de même. La nuit m'ennuie maintenant. Un simple fait divers. De 4 à 5 heures. Noctambule rentrée. Les rares salariés de Noël ont encore sorti. Calme plat. Moi, je me trouve de plus en plus con d'avoir tenté un truc comme ça. À mon âge. Je scrute le ciel, je ne vois rien venir, je délire un peu. Les études sur le sommeil doivent être passionnantes. Pour une autre fois, dans une autre vie. De 5 heures à 6 heures. 5h05. Qu'il est bon, mon lit. Je ne me lève pas avant midi, au plus tôt. Chut.
Mais tout ce passé était devenu si translucide avec le temps. Une bouée qui se dissipait sous le soleil. Patrick Modiano. Vous avez entendu des nouvelles de Muriel Beckett, Bernard Seller et Philippe Coat, lues par leur auteur, ainsi qu'une nouvelle de Henri Burka, lue par Anaïk Frappard. Au revoir et rendez-vous à la fin du mois pour la prochaine émission.
Cette émission, Le chemin des mots, a été réalisée par Philippe Coat, Michel Frappard, Yves Amon, Bernard Zieler. Ils vous embrassent. Les textes rédigés ces derniers mois l'ont été dans les ateliers animés par Sylvie Boget. L'émission est diffusée le 1er et le 3e mercredi de chaque mois à 17h30. Sur Jet FM 91.2. Merci de votre écoute et bise à partager sur le chemin avec vous.